Seigneur, merci pour ta grâce et ta fidélité et pour l'opportunité que tu nous accordes, Seigneur, de pouvoir recevoir ta parole. Nous prions pour que, Seigneur, ta parole nous transforme et fasse de nous, Seigneur, des êtres nouveaux, Seigneur, selon ta volonté. Merci de nous parler. Merci de nous éclairer. Seigneur, que l'humilité, Seigneur, puisse, Seigneur, gagner nos cœurs, que nous puissions être des petits enfants pour recevoir et accepter ta parole, Seigneur, dans toute la vérité, afin d'être transformés au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Nombres au chapitre 11. Nombres au chapitre 11. Nous lisons à partir du premier verset jusqu'au verset 9 et ensuite verset 18 et 20. Nombre, chapitre 11. Le peuple murmura, et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel, et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de Tabera, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Verset 4. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise, et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger ? Nous nous souvenons des poissons que nous mangeions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, des olives. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. La manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence du blédium. Le peuple se dispersait pour la ramasser. Il la broyait avec de meules et la pilait dans un mortier. Il la cuisait au pot et en faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à l'huile. Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Verset 18. Dieu parle à Moïse. Une fois que le peuple a murmuré ses plaintes, Dieu parle. Et il dit au verset 18, « Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain et vous mangerez de la viande puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, « Qui nous fera manger de la viande ?» Car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Vous en mangerez, non pas un jour, ni deux jours, ni cinq jours, ni dix jours, ni vingt jours, mais un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez du dégoût, parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous et parce que vous avez pleuré devant lui en disant, pourquoi sommes-nous sorti d'Égypte. Voilà la parole du Seigneur. On nous dit que le peuple murmura une fois encore. Le peuple a murmuré. Le peuple n'était pas content de la façon de faire de Dieu. Et on nous dit au verset 4 que le ramassis c'était des gens, c'était lorsque le peuple est sorti d'Égypte, il y a des peuples qui les ont suivis, qui vivaient avec eux, qui étaient peut-être oppressés aussi, et qui ont suivi Israël, qui ont suivi le peuple de Dieu. Et parmi ce peuple-là, il y a des gens qui n'aimaient pas réellement Dieu et qui poussaient le vrai peuple de Dieu à se rebeller, à contester les décisions de Dieu. Et on nous dit ici que le ramassis du peuple se met à murmurer, à crier, à parler contre Dieu. Et cette situation que nous vivons, c'était une situation provisoire parce que Dieu avait donné une promesse à Israël. La promesse était laquelle ? C'était de sortir le peuple d'Égypte pour le ramener où ? Pour qu'il entre en terre promise, dans le pays où coule le lait et le miel. C'était ça la vision, l'objectif final de Dieu, c'était de sortir le peuple pour le faire rentrer dans la promesse que lui, il a choisie, il a fait pour Israël. Donc cette situation que nous vivons était une situation provisoire. Parce que Dieu avait un objectif au travers de cela. On se rappelle lorsque Dieu lui-même dit qu'il aurait pu faire passer le peuple d'Israël par un autre chemin qui était moins long, moins difficile. Mais Dieu dit non, je ferai passer le peuple par le chemin que j'ai choisi, par le désert, afin qu'ils ne reviennent pas en arrière en voyant les ennemis, finalement, que la peur ne puisse pas avoir raison, gagner leur cœur et qu'ils reviennent en arrière. Le but de Dieu, c'était d'emmener le peuple dans la promesse. Et cette situation que nous vivons était provisoire. Mais le peuple, qu'est-ce qu'il voulait? Le peuple voulait tout de suite des choses. On se rappelle dans l'autre passage où le peuple a soif, il crie à Moïse, « Donne-nous à boire !» Et Dieu sort de l'eau du rocher à l'instant. Le but de Dieu, c'était qu'Israël, son peuple, comprenne que Dieu est tout-puissant et que le véritable bonheur ne se trouve qu'en lui seul. Et ce peuple a refusé, en quelque sorte, la main tendue de Dieu. Ils se sont arrêtés à cette situation provisoire pour se plaindre après Dieu. Parce qu'en réalité, ils étaient impatients. Mais ce n'est pas ça la vraie raison. La vraie raison, nous l'avons lu au verset 4. C'est la convoitise. Mais voyons d'abord l'impatience. Quand on est dans la convoitise, finalement, on devient impatient. On veut la chose, c'est tout de suite. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas après-demain. C'est tout de suite. On nous dit le peuple pris par la convoitise. Il a commencé à murmurer contre Moïse. En disant nous étions bien. Et il commence à citer même des concombres que nous mangeons, des oignons que nous mangeons en Égypte. La viande qui ne coûtait rien du tout. Le poisson. On avait toutes ces choses. Et aujourd'hui, nous sommes malheureux. La convoitise, c'est le fait de vouloir désirer quelque chose fortement en pensant même que notre bonheur dépend de cette chose-là. C'est ça la convoitise. On peut avoir des désirs. On peut avoir des souhaits et prier par rapport à cela. Mais penser que c'est ce que nous demandons que nous pensons posséder qui va nous donner le bonheur, là on se trompe. Le thème de notre partage ce matin, notre exhortation, c'est « Seul Dieu rend heureux. Seul Dieu donne le bonheur. Seul Dieu. » Et la réponse de Dieu au verset 18 nous le montre. Dieu dit à ce peuple, « Je vous donnerai de la viande. Il n'y a pas de problème. Vous en mangerez, non pas un jour, non pas 10 jours. » Non pas 20 jours, non pas vous en mangerez pendant un mois jusqu'à ce que cette viande-là vous sorte par les narines. C'est ça que Dieu est en train de dire à ce peuple. Pour dire en réalité, parce que c'est ce qu'il dit, hein. Il dit en réalité, vous ne voulez pas de la viande. En réalité, vous ne voulez pas de moi, l'Éternel. C'est ça que Dieu est en train de dire à ce peuple. Vous ne voulez pas de moi. Et beaucoup sont comme ça. Ils ne veulent pas patienter. Ils ne veulent pas s'humilier devant la façon dont Dieu fait les choses. On veut imposer des choses à Dieu. On veut contrôler les choses. On veut que ça soit comme ça. Je désire, c'est maintenant. Et si ce n'est pas ainsi, on murmure après les hommes, parce que forcément Dieu on ne le voit pas. On commence d'abord par murmurer, parce qu'on... Nous ne l'avons pas lu. Moïse a peur. Lorsque le peuple commence à pleurer, à crier, à se lamenter, Moïse a peur. Il crie à Dieu. Il dit, Seigneur, encore un peu, ce peuple va me lapider, ce peuple va me tuer. Et c'est là que Dieu répond maintenant à Moïse. Dieu dit à Moïse, dis au peuple, rassemble le peuple, sanctifie-le et dis-lui que je lui donnerai. J'ai entendu ses prières. J'ai entendu ses cris. Je lui donnerai ça. Mais... le but, c'est qu'ils comprennent que puisqu'il veut la viande, il en aura. Mais finalement, une fois qu'il aura cette viande-là, eh ben, il ne sera pas heureux. Finalement. Et l'enseignement qui est dans ce texte-là, c'est un enseignement qu'on voit dans la vie humaine, tout simplement. Combien de gens ont pensé que c'est en ayant un bon travail que finalement ils seront heureux? Combien de personnes l'ont pensé? En ayant un bon travail, je serai heureux. Parce qu'un bon travail, ça sous-entend quoi? Une stabilité. Cette stabilité-là va faire quoi? Va faire que je peux contracter un crédit. Je suis crédible, éligible au niveau de la banque pour un crédit, pour acheter une maison, pour acheter une voiture. Cette stabilité va faire que je peux avoir une situation familiale. Mais finalement, ceux qui ont ce travail-là, ceux qui ont ces CDI-là, est-ce qu'ils sont heureux pour autant? Ils n'en sont pas. Parce qu'on trouve toujours quelque chose à redire. Comme on nous a parlé une fois du grain de sable. Le grain de sable, c'est l'histoire de Naaman, le Syrien qui était roi, qui était général, proche du roi. On nous dit qu'il avait la faveur du roi. Il était très proche, parce que c'est une chose d'avoir le pouvoir. C'en est une autre. D'avoir le pouvoir et d'être le proche du président. C'est pas la même chose. Quelqu'un peut être premier ministre, mais l'autre être un simple conseiller, mais ce conseiller-là a plus de passe-droit que le premier ministre. Parce que c'est un proche des proches. Là où le premier ministre ne passe pas, lui, il passe. Et Naaman avait tout cela. Il avait non seulement le pouvoir, il avait la force parce qu'on nous dit que c'est lui qui avait mené des guerres. Et voilà que cet homme, riche, fort, beau, grand, on nous dit vaillant, cet homme était lépreux. Finalement, il ne pouvait pas jouir de son bonheur réellement parce qu'il était malade. Et c'est ça la situation de beaucoup. C'est ça la situation de beaucoup. Seul Dieu rend heureux. Et ce peuple pris par la convoitise, il se dit non, c'en est assez de manger la manne tous les jours. On veut autre chose. On veut changer des choses. Et c'est la même chose avec beaucoup qui pensent que en ayant de la nouveauté, eh ben on sera bien. Non, c'est faux. C'est faux. C'est d'avoir Dieu qui fait qu'on est heureux, qu'on a le véritable bonheur. On a le véritable bonheur et le diable va venir toujours nous tromper. Le diable va venir nous faire croire que tel qu'on est, eh ben, il nous manque quelque chose. On se rappelle dans Genèse au chapitre 3, lorsque le serpent vient voir Ève, il lui pose la question, il lui dit, Dieu a-t-il réellement dit que si vous mangez de l'arbre, de cet arbre, vous allez mourir? Alors que l'ordre de Dieu était clair. Et Ève, je pense que quand le diable lui pose cette question-là, c'est comme si ses yeux s'ouvrent à ce moment-là. C'est comme s'il y a une convoitise qui naît dans son cœur pour dire, ah ben finalement, parce qu'on nous dit, finalement, quand elle discute avec le serpent, que ses yeux s'ouvrent, elle voit que l'arbre était beau, que le fruit était bon. Et nous connaissons la conséquence. La conséquence, c'est que le péché est entré dans l'humanité. Et le diable n'a pas changé. Il fonctionne toujours de la même façon pour te faire croire que le bonheur, tu ne l'as pas. Alors il faut le chercher. Et quand tu cherches le bonheur en dehors de Dieu, eh ben déjà, tu ne le trouveras pas, d'une. Mais de deux, tu vas t'en prendre aux autres autour de toi. Ceux qui lisent un petit peu les pensées du jour ou qui les reçoivent, la pensée que nous avons reçue hier, où le Seigneur dit, avant d'enlever la paille, c'est une paille, hein, ça veut dire ce que ça veut dire, qui est dans l'œil de l'autre, enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil. Et on nous disait dans ce message que bien souvent, lorsqu'on n'atteint pas le bonheur, on cherche autour de nous quelle est la cause de notre malheur. Qui est le problème? Qui est celui qui m'empêche d'être heureux? Bien souvent, c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est mon mari le problème. C'est ma femme, sans doute, si elle était comme une telle. Si elle était comme telle sœur. Sans doute, les choses auraient été différentes. Si mon mari était comme un tel, sans doute, j'aurais été plus heureux. S'il faisait le ménage comme un tel. Et là, quand on laisse libre cours à ces pensées-là, c'est là qu'arrive la convoitise. Et c'est là qu'arrive le diable pour te dire, ben finalement, puisque tu n'es pas heureux, ben ne reste pas dans cette situation-là, parce que tu n'es pas heureux. Puisque tu n'es pas heureux, regarde-moi ce que je te propose. Regarde quelqu'un qui est là, qui est disponible. Et là, bien souvent, c'est là qu'un gentleman va venir, bien poli, bien beau, bien propre, bien gentil. Et là, dans les pensées dans la tête se viennent pour se dire, ah ben oui, mais pourquoi pas? On vit qu'une seule fois. Bien aimé, c'est ça la réalité. Le bonheur ne se trouve qu'en Dieu. Seul Dieu rend heureux. C'est ce que Dieu dit à ce peuple. Il dit, on nous dit, ils ont murmuré une fois de plus. Ce n'était pas la première fois. Et là, imaginons la manne. C'était quoi? C'était une nourriture que Dieu faisait tomber du ciel chaque jour. Quel miracle! Combien d'entre nous veulent voir des miracles pour croire en Dieu? Ou peut-être pas pour croire en Dieu, mais pour être sûr que Dieu agit. Combien? Mais c'est pour nous dire que les miracles, on peut en voir de toutes sortes. Il y en a qui ont dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant alors que tu ne pouvais pas enfanter, Dieu te donne un enfant, maintenant, ah non, mais j'ai pas le temps, moi. Ah, vous savez, l'enfant, ça prend beaucoup de temps. Ça change une vie. J'ai pas dormi de la nuit. J'ai pas... C'est ça. C'est ça. Mais quand on demande, on a l'impression que si on a la chose, finalement, on sera l'homme le plus heureux, la femme la plus heureuse. Mais Dieu est en train de nous dire, désirez autre chose que lui. C'est ça, Dieu est étonné. Pourquoi Dieu se fâche? Pourquoi Dieu se met en colère? Parce que Dieu se dit, mais comment ce peuple peut me rejeter? Comment ce peuple peut désirer autre chose que moi? Parce que Dieu a compris. Quand le peuple dit, donne-nous la viande Moïse, Dieu a compris qu'en réalité, c'était un prétexte. Comme beaucoup aussi sont dans les prétextes. Il n'est pas bien spirituellement, mais au lieu de reconnaître, dire, je suis pas bien, j'ai peut-être l'orgueil, peut-être que j'ai la convoitise, on va chercher à accuser l'autre. L'autre se comporte mal. L'autre ne fait pas ci. L'autre ne fait pas ci. Soyons humbles. C'est ça notre conclusion, mais nous allons arriver pour dire à Dieu réellement notre problème. Au lieu de passer autour, de passer par quatre chemins, soyons humbles pour aller être francs. Dire, quel est mon problème? C'est ça mon problème. Dieu, lui, l'a compris. Il dit, Moïse, c'est pas contre toi qu'ils sont en colère, ce peuple. Parce que Moïse a peur. Dieu lui dit, non, c'est pas contre toi, c'est après moi. Ce peuple me rejette. C'est ce que Dieu lui-même dit. Mais puisqu'il me rejette, alors, et qui veut la viande, il en aura de la viande. Il en mangera. Il en mangera même jusqu'à ce qu'il en ait marre. Qu'il en ait vraiment, qu'il soit fatigué d'en manger. C'est ça la leçon que Dieu nous donne. Pour nous dire, attention, désirer autre chose que lui ne mène qu'à la mort. Désirer autre chose que lui ne mène qu'à la mort. Nous lisons Jean au chapitre 4, ce que le Seigneur Jésus dit à cette femme. Jean 4, à partir du verset 7. Jean chapitre 4, verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Amen. Voilà ce que dit le Seigneur à cette femme. Jésus est en discussion avec la femme. Il dit à la femme, donne-moi à boire. La femme lui dit, mais comment toi, qui es juif, tu me demandes à moi, une femme samaritaine, à boire? Il n'y a pas de rapport entre nous et entre vous. Jésus lui dit, mais si tu savais qui est celui qui te demande à boire, tu te serais précipité à lui demander, à lui de l'eau. Parce que ce que lui, il a te proposé est beaucoup plus grand. Et il rajoute maintenant au verset 13, quiconque boit, cette eau aura encore soif. L'eau que tu viens puiser là, tu en puises aujourd'hui. Tu vas en puiser peut-être, je pense pas qu'elle avait la force de puiser un tonneau d'eau. C'était sûrement des seaux. Il dit, mais ce seau là que tu vas puiser, ça va durer une journée. Et encore une journée, s'il faut se doucher avec, s'il faut faire à manger, s'il faut boire, bah ça va durer quelques heures. Et tu seras obligé de revenir encore. Et il dit, verset 14, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Jésus est en train de dire que moi, je suis une source intarissable. Ce que moi je donne, le bonheur que moi je peux donner, eh ben, c'est un bonheur qui est éternel, qui n'est pas lié aux événements humains. Comme on disait tout à l'heure, combien ont pensé que c'est le jour où je veux me marier que ma vie va changer. Finalement, le mariage est devenu comme l'objectif à atteindre. Mais finalement, une fois marié, revoyons les mêmes personnes là. Est-ce que tu as atteint maintenant le ciel comme tu pensais atteindre le ciel? Finalement, tu n'as pas atteint le ciel. Tu n'as pas atteint le ciel. Ceux qui se disaient le travail que je vais avoir, maintenant tu l'as eu. Nous avons vu dans la police combien ne se suicident pas. On voit à France Télécom combien de morts il y a eu dans beaucoup d'entreprises, de gens qui se suicident. Ça nous montre que le bonheur ne vient pas de l'homme. Notre convoitise nous fait croire qu'on peut créer le bonheur, on peut le fabriquer. Mais il y a des éléments, ce qu'on appelle en français des impondérables. C'est-à-dire que ce sont des événements qui sont indépendants de nous. Parce que j'en connais, tu peux faire du sport, tu peux être avec une bonne hygiène alimentaire, manger, comme il y a beaucoup de modes aujourd'hui, vegan, les gens qui ne mangent pas ci, qui ne mangent pas ça, les gens qui font ci, écolo, il y a toutes sortes de tendances. Mais il y en a qui suivent toutes ces choses bien à la lettre. Manger le blanc de l'œuf ou le jaune de l'œuf seulement, faire ceci, boire un bon verre d'eau le matin pour purifier le corps. Mais les mêmes personnes là, un jour, check-up, le médecin découvre, ah, cancer. C'est ça qui fait mal parce qu'on se dit finalement, je fais du sport tous les jours. J'ai une bonne hygiène alimentaire, pas trop gras, pas trop salé, pas trop sucré, pas tout ceci, pas cela, pas... On se refuse même des plaisirs. Finalement, tu te fais souffrir comme ça pour finalement apprendre que bah, tu as une maladie. Et ça, ça dépasse l'homme. Il y a une colère qui vient pour dire « c'est injuste ». Mais le thème de notre partage de ce matin, c'est pour dire « sois humble ». Il y a deux réactions. Soit tu te rebelles vis-à-vis de Dieu. Et là, malheureusement, qui peut se rebeller, qui peut contester, qui peut se battre avec Dieu et gagner? Ou alors, tu t'humilies, tu te fais petit. C'est cela. Et Jésus dit, l'eau que moi je donne est une source intarissable. Le bonheur que moi je produis est un bonheur intarissable. Bien-aimés, mettons-nous dans le contexte. Nous n'avons pas lu la suite, verset 16, verset 17. Cette femme était dans quel état? Elle était malheureuse. Cette femme était triste. Comment on le sait? On le sait parce que Jésus, qui est Dieu, a lu dans son cœur. Il connaissait son histoire. Il dit, verset 16, « Femme, ramène-moi ton mari. » La femme regarde Jésus. Elle dit, « Oh, pourquoi il me parle tout de suite? On parle de l'eau, on parle de puiser de l'eau. » Parce que Jésus va au but maintenant pour lui dire, « Tu es malheureuse. » La femme est honnête, elle dit, « Écoute, Seigneur, celui avec qui je suis n'est pas mon mari. » Jésus lui dit, « Oui, oui, en ça, tu dis vrai parce que tu as eu 5 maris. Donc si on compte celui avec qui tu es actuellement, ça veut dire que tu en as eu 6. » Vous vous rendez compte, cette femme a eu 6 hommes dans sa vie. 6. 6. Peut-être de toutes les couleurs, de toutes les tailles, de toutes les coupes de cheveux, de tout. Elle a eu 6. Était-elle heureuse? Elle était malheureuse. Jésus le savait. Il va maintenant droit au but pour lui faire comprendre, lui dire, écoute, au lieu de discuter avec moi, comprends qui je suis, parce que tu es malheureuse, parce que tu es triste. Mais pourquoi tu es triste? C'est ça notre question. Parce que le thème, c'est « Seul Dieu rend heureux ». Mais pourquoi tu es triste? Tu es triste parce que, premièrement, tu n'as pas cherché Dieu pour avoir le bonheur. Tu as cherché le bonheur par toi-même. Et beaucoup sont comme ça. Ils veulent créer le bonheur par eux-mêmes. Alors on va se faire beau. Alors on va se faire belle. Alors on va mettre tous les atouts de notre côté. Alors on va faire ceci, on va faire cela. Mais il y a des gens, bien aimé, c'est une réalité. Il y a des gens qui vont quitter. Moi, j'en connais une ancienne collègue de là où on était. C'est-à-dire qu'elle quitte son mari. Bon, en tout cas, c'est la raison officielle. Peut-être qu'il y en a une autre. Elle quitte son mari parce que elle trouve que le monsieur est trop gentil. C'est une réalité. Parce que le monsieur est trop gentil, il est trop bon. C'est la même qui dit, oui, mon mari à la maison, il fait ci, il fait ça, il fait ceci, il fait tout à la maison. Comme on dirait l'homme idéal dans le langage courant. Mais voilà que cet homme idéal-là, eh ben, à un moment donné, eh ben, on n'en veut plus. Et celui qui est à l'extérieur, quand il entend, il se dit, mais toi, tu as un problème. Le collègue est venu voir la collègue une fois qui pleurait pour lui dire, mais toi, tu es sérieuse, toi? Tu pleures en plus. Et c'est toi qui as décidé de partir. Et c'est triste. Pendant une bonne période. Le collègue lui dit, c'est toi qui décides de partir. Tu as quelqu'un qui est sérieux, qui est dans... vu la conjoncture actuelle, trouver déjà quelqu'un, c'est quelque chose. Mais trouver quelqu'un de bien, de correct, ah, c'est encore quelque chose, encore un païen. Ah, il faut courir, il faut trouver. Mais c'est cela. Sur un coup de tête, on décide, on se dit, bon, avec les copines, on se dit, bon, non, moi, je préfère quelqu'un de ferme. Un vrai homme, un dur. Tu vas en trouver des durs. Tu vas en trouver. Tu vas en trouver des durs. Et c'est cela. Et nous sommes comme ça. On pense trouver le bonheur par nous-mêmes. Alors, on se fixe nos critères. Je voudrais comme si, je voudrais comme ça. C'est comme aujourd'hui, il y a la possibilité d'avoir des bébés sur commande, des bébés internet. On choisit sur une banque de sperme aux États-Unis ou je sais pas où. On choisit la couleur des yeux, les yeux bleus. On choisit la taille, on choisit le coefficient intellectuel, même le QI. On choisit tout. Parce que l'homme veut se créer son bonheur. Mais pour se créer son bonheur, il éloigne d'abord Dieu. Et c'était le cas de cette femme. 6 hommes dans sa vie, mais triste. Et ce jour-là, elle a rencontré Jésus. Jésus lui parle, elle regarde Jésus, elle dit, « Ah, mais toi, tu es réellement un prophète. » Elle est heureuse, elle va dans la ville pour dire, « Venez voir, j'ai rencontré un homme qui m'a tout dit sur ma vie. » Finalement, ce jour-là, elle a trouvé le bonheur. Comment faire pour être heureux? C'est, première chose, c'est tournons-nous vers Dieu. Tournons-nous vers l'Éternel. C'est ce que ce peuple aurait dû faire. Il aurait dû se tourner vers Dieu plutôt que de crier contre Moïse. Parce qu'en réalité, en criant contre Moïse, il criait vers Dieu. Mais il aurait dû se tourner vers Dieu. La deuxième chose qui est importante, c'est quoi? C'est, on a dit la première chose, c'est cherchons le bonheur en Dieu. Tournons-nous d'abord vers Dieu. La deuxième chose, c'est ce que nous avons déjà reçu du Seigneur, considérons que c'est sa grâce. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est une faveur imméritée. C'est-à-dire que je reçois quelque chose qui, en temps normal, je n'aurais pas reçu. Alors, on me le donne tout simplement parce que celui qui me donne estime ou alors m'aime. Et il me la donne, la chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de critère pour dire il faut que tu aies tel diplôme, il faut que tu aies ceci. Quand on parle de grâce présidentielle, c'est-à-dire que le président, quand il arrive, selon la Constitution, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, l'ancien président voulait supprimer, mais en tout cas, le président a cette prérogative-là, cette autorité, de décider de libérer un prisonnier. C'est-à-dire que même si il est coupable ou non coupable, ou peu importe, mais lui, il a ce droit-là de dire, tel monsieur sort de prison. Pourquoi? Parce que c'est le président qui a décidé. Voilà. S'il n'y a pas de critère objectif, c'est ça la véritable grâce selon Dieu. Parce que même la grâce présidentielle aujourd'hui, il y a quand même des critères. On va voir que la personne, bon, se comporte bien, la personne ceci, le cas de la personne. Mais selon Dieu, sa grâce à lui est une véritable grâce. C'est-à-dire que tu peux être l'homme le plus mauvais, le plus méchant. Parce que pour Dieu, il n'y a pas de petit et de grand péché. Celui qui a tué, celui qui a menti, celui qui a de la jalousie, de la colère, pour Dieu, ils sont pareils. C'est là qu'on voit la véritable grâce. Parce que la grâce humaine présidentielle, comme j'ai dit, c'est en fonction de ce que la personne a fait. On peut décider que bon, cette personne-là, bon, elle a volé sur une étale, elle a tapé quelqu'un, elle a fait ceci, bon, ça, elle a cumulé des peines ou des délits. Elle est emprisonnée, le président peut libérer cette personne-là. Mais ça ne sera pas forcément un braqueur qui a tué 30 personnes. Ah non! Mais Dieu, lui, pour lui, sa grâce à lui, elle s'exprime à tous les humains de la même manière. Quoi qu'ils aient fait. Donc notre deuxième point, c'est reconnaître tout ce que nous avons comme étant la grâce de Dieu. Dire, Seigneur, je ne le mérite pas. Et c'est ça qui a manqué à ce peuple. Bien souvent, nous nous comportons comme des petits princes avec Dieu. Nous nous comportons comme des petits rois avec Dieu. On exige, c'est ce que ce peuple fait. Il exige à Dieu. Il dit, il y en a marre. Excusez-moi le terme. Nous sommes fatigués de la manne. Nous voulons maintenant la viande. C'est un caprice. C'est ça qu'on appelle en français, un caprice. Moi, je ne veux pas les choses comme ça, moi je veux que ça soit ainsi. Et puis c'est tout, caprice de star. Une star arrive quelque part et elle dit, bon, la couleur, c'est trop blanc, allez, il faut un peu de la couleur. On met de la couleur parce que c'est la star. Et peut-être qu'elle ne va même pas rester dans cette suite-là. Mais parce que c'est un tel, on va faire. C'est ça. Et ce peuple est tombé dans cela, en considérant que c'était un dû. Et c'est comme ça que nous sommes surtout ici en France. Ici en France, on a vraiment cet esprit-là de rébellion vis-à-vis de l'autorité. Pourquoi ? Parce que on a un système social qui est tellement fort qui fait que tout devient indu. L'État te doit. L'État doit te donner ceci. L'État doit te donner cela. Et quand l'État décide de changer des choses, allez, gilets jaunes, on se met dans la rue. On n'est pas d'accord. C'est indu. Faisons un tour dans les pays étrangers là pour voir comment les choses se passent. Je pense que beaucoup, j'ai suivi une fois un reportage des Américains qui sont choqués que lorsque le mouvement des gilets jaunes a commencé, je crois que c'était le 2 ou 3e samedi, mais ils étaient choqués d'entendre les revendications des gilets jaunes. Ils se disent, mais c'est pas possible. Parce que vu de l'étranger, ils se disent, la France, ah, tu peux te faire soigner gratuitement, peu importe la maladie. Tu as des aides sociales, tu as des congés payés, tu as ceci. Mais aux États-Unis, il n'y a pas tout ça. Aux États-Unis, vaut mieux pour toi ne pas tomber malade. Vaut mieux ne pas faire des études parce que il y a des enfants qui s'endettent. Vous vous rendez compte, à 16 ans, 17 ans, tu as déjà eu une dette de 30 000, 40 000 euros pour tes études. Et plus tu montes, eh ben plus la dette. Donc tu commences ta vie active en tant que travailleur avec peut-être même 500 000. En fonction de l'école que tu fais, 500 000 euros ou 200 000 euros de dette que tu vas devoir rembourser pour ton diplôme. Et c'est un système généralisé là-bas. Bien sûr, il y a aussi des écoles privées ici qui ont ce fonctionnement, mais c'est un choix. Mais là-bas, ça fonctionne comme ça. Ici, on a le choix. Et quand ces gens-là voient les revendications, ils se disent, mais c'est pas possible. Avec tous ces avantages que ces gens ont. Ils trouvent encore la force, le courage de revendiquer encore pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Mais non seulement cela, ils frappent les policiers, ils bousculent les policiers. Quand les étrangers voient ça, ils voient que la France, c'est un film, c'est un cinéma. Ils se disent, mais c'est pas possible ce pays-là. C'est pas possible. Donc nous, ce qu'on se permet ici, à l'étranger, c'est pas comme ça. Ne serait-ce qu'en Angleterre, ne serait-ce qu'en Suisse, ne serait-ce qu'en Allemagne. C'est pas du tout la même chose. Là-bas, tu fais le costaud, la police te tape très bien. Mais ici, la police te tape, tu portes même plainte contre la police. Alors je ne suis pas pour la violence, non, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est pour dire que les avantages que nous avons dans notre pays, on ne se rend même plus compte que ce sont des avantages. Et quand on ne réalise pas ce qu'on a comme étant une grâce de Dieu, eh ben, on va demander plus. Parce qu'on considère que c'est notre droit. On se rappelle dans Luc 15, le fils prodigue, qu'est-ce qui se passe? Il vient voir son père pour lui dire, écoute mon père, ça fait un moment que je suis avec toi, je t'aime beaucoup, mais maintenant, je vais voler de mes propres ailes. Alors donne-moi ma part de bien et je veux partir. Finalement, le père en disant cela, parce que l'héritage on le donne après la mort du parent. Donc ce fils a décidé finalement de s'affranchir, non seulement de s'affranchir de l'autorité, mais symboliquement, le père n'existe plus. Alors qu'il avait touché son père. Son père pourvoyait à ses besoins. Mais à un moment donné, il se dit, non, je suis suffisamment mature pour m'assumer. Mais nous connaissons la suite de l'histoire. C'est qu'il est allé, il a souffert, mangé la nourriture des cochons. Mais on nous dit, étant rentré en lui-même, il s'est dit, non, même les mercenaires, chez mon père, ils ont de quoi manger. Alors je vais retourner chez mon père. Il a compris que finalement, tout ce qu'il recevait chez son père, c'était la grâce, tout simplement. Et c'est ça que Dieu veut que nous puissions comprendre. Comment entrer dans le bonheur que Dieu nous donne? Premièrement, cherchons Dieu. Deuxièmement, considérons tout ce que nous avons comme étant la grâce de Dieu. Il y a un chant qui dit, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. C'est ça. Ouvrons nos yeux, regardons autour de nous. Tu as des sujets de te plaindre, certes, légitime ou illégitime, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ce que tu as déjà autour de toi, considère que Dieu t'a fait grâce. Considère cela. Je parlais avec une personne, je disais, considère que le mari que tu as, même si tu estimes que ce mari-là n'est pas à l'image que toi tu souhaites, parce qu'attention de ne pas tomber dans la convoitise, de vouloir désirer l'homme comme si, parce que je veux qu'il soit comme ça, qu'il parle comme ça, qu'il ait tel tic, qu'il ait telle mimique, qu'il s'habille comme ça, qu'il s'habille. Non! Et quand tu n'arrives pas à cela, eh ben, tu commences à te mettre en colère. Il commence à t'énerver, bah forcément, parce qu'il n'est pas comme toi tu veux. J'ai dit à la personne, comment faire? Commence d'abord par réaliser que tu as la grâce de Dieu. La grâce, laquelle? C'est d'avoir un mari. Commence déjà par dire merci Seigneur. D'avoir quelqu'un qui est gentil. Mais c'est la grâce de Dieu. Bien-aimés, combien sont dans les mariages et se font violenter, agresser physiquement, verbalement? Combien souffrent? Même, je ne parle même pas des païens, même parfois dans les milieux chrétiens. Combien sont tristes? Alors la réponse du Seigneur, c'est considère d'abord ce que tu as, ce que Dieu te donne chaque jour, comme étant sa grâce. C'est ce que le peuple aurait dû faire. Considérer que Dieu nous a sortis d'Égypte. Dieu nous a amenés jusqu'à dans ce lieu, dans le désert. Dieu nous nourrit tous les jours. Paul dit dans 1 Corinthiens 11, une nourriture que n'ont pas connue les pères autrefois. La Bible dit, Paul dit, il dit au peuple, mais ces gens-là, ils ont mangé. Une nourriture qui tombait tous les jours. Bien sûr, cette nourriture avait un enseignement. C'est notre troisième point. Mais comprenons d'abord que tout ce que nous avons, c'est la grâce de Dieu. Avant de commencer à te plaindre. Oh mon enfant, me cause la honte. Mon enfant, partout où je suis, on parle que de lui en mal. Non. Commence déjà par dire, Seigneur, merci pour l'enfant que tu m'as donné. Parce qu'il y en a qui tapent du poing, de tout ce qu'on veut. Pour trouver un enfant, il n'en trouve pas. Il n'arrive pas à en avoir. Commence déjà quand tes yeux s'ouvrent, comme il est écrit dans le psaume 103, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Il dit encore « Mon âme bénit ». Donc, le psalmiste donne un ordre à son âme. Parce que son cœur désire autre chose. Ses pensées désirent autre chose. Mais Dieu lui dit « Écoute, ce que j'ai déjà fait, est suffisant pour que tu me loues. » On se rappelle de l'histoire de 2 Corinthiens 12, verset 9. C'est l'histoire de qui de Paul. Paul dit, j'ai prié par rapport à l'écharpe qu'il avait. J'ai prié encore une fois. Il dit à trois reprises, mais trois reprises, c'est pas trois fois pour dire, j'ai prié une fois, j'ai prié deux fois. Non, Paul est en train de dire que j'ai prié autant qu'un homme spirituel peut prier pour une situation. J'ai fait ce qu'il fallait. Et quelle est la réponse que Dieu lui donne? Dieu lui dit, ma grâce te suffit, car ma puissance se manifeste dans la faiblesse. Et Paul maintenant comprend, quand il comprend la grâce de Dieu, il comprend et il dit, je comprends pourquoi Dieu me donne les chardes. Il dit, j'ai tellement, c'est le don de Dieu, comme il est écrit dans 1 Corinthiens 4, verset 7, qu'as-tu que tu n'as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi vas-tu te glorifier comme si tu ne l'avais pas reçu? C'est pour dire quoi? Tout ce que nous avons, les dons que nous avons, de comprendre la parole de Dieu, de l'expliquer, de chanter, de tout cela, c'est un cadeau de Dieu. Et Paul comprend que Dieu a permis cette situation, qu'il ait les chardes pour qu'il reste dans l'humilité, parce que avec les révélations qu'il avait, un homme parfait, trop parfait, eh ben, on va te déifier, on va te faire Dieu. Les humains vont te faire Dieu. Ils vont te faire Dieu. Ils vont dire, mais comment un homme peut connaître? C'est pour ça que quand un homme sait tout faire bien parfaitement, faut vraiment se méfier. Il faut se méfier. Après, Dieu fait comme il veut. Mais Dieu fera toujours que la gloire lui revienne. Et pour que la gloire lui revienne, il y aura toujours un point sur lequel, quand on voit notre faiblesse, on se dit, j'ai besoin de Dieu. Je me rappelle d'un évangéliste qui faisait des campagnes en Afrique. Des grandes campagnes d'évangélisation, très grandes campagnes. Dans ces campagnes, il y avait des conversions, des milliers de personnes qui se convertissent. Mais quand je dis des milliers de personnes, c'est 100 000, 200 000 personnes dans les campagnes de cet homme-là. Bien sûr, par la grâce de Dieu. Et un jour, il témoigne, il dit, moi, je vais en Afrique, au Nigeria, un pays musulman. Et de ce côté musulman, là où je vais, il y a une campagne, 600 000 personnes. Il y a peut-être 300 000 conversions. Il dit, mais dans le même temps, mon propre frère ne veut pas entendre parler de Jésus. Il dit, longtemps j'ai prié par rapport à ça. Et le Seigneur m'a fait comprendre que finalement, les gens qui se convertissent, ils ne se convertissent pas parce que tu es évangéliste tel. Non. Les gens se convertissent parce que moi, je les attire à moi. Donc si ton frère ne te convertit pas, bien sûr, il a sa part à lui d'accepter Jésus. Mais le Seigneur lui montre que finalement, déjà, ce n'est pas lui qui convertit les gens, mais il a besoin aussi de s'humilier devant le Seigneur pour que son frère soit touché. Il dit, moi qui prie pour des paralytiques, des gens qui marchent avec des béquilles pendant plusieurs années, ils sont guéris. Moi-même, j'ai des problèmes de vue. Ma vue ne cesse que de baisser. Et il dit, je comprends que j'avais du mal. Mais maintenant, je comprends que Dieu permet cela pour que je puisse comprendre que je ne suis pas un surhomme. Parce que il y a des exploits qu'un humain peut faire qui vont lui faire penser qu'il est extra. Dieu l'utilise puissamment dans les guérisons, mais lui-même, sa vue baisse. Donc il a besoin qu'on prie aussi pour lui. C'est ce qu'il a compris. Mais notre enseignement, c'est nous dire, réalisons déjà la grâce que Dieu nous fait. Tu as une famille. Bénis le Seigneur pour la famille que tu as. Tu as la grâce de manger avec les enfants, avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants. Bénis le Seigneur pour cette grâce que tu as. C'est là que tu vas entrer dans quand tu réalises ce que le Seigneur fait. Quand tu réalises ce que le Seigneur fait pour toi, tu réalises que tout n'est que grâce. C'est cela. Quand on réalise cela, alors on entre maintenant dans le processus d'être heureux. Parce que cette femme-là s'est dit, mais comment le Seigneur vient me parler à moi qui suis une femme de mauvaise vie, six maris? Mais c'est la grâce de Dieu. On se rappelle du centenaire romain, dans Luc 7, il vient voir Jésus, il dit à Jésus, maître, mais il n'est pas question que tu viennes chez moi. Il dit une phrase hein, qui est extraordinaire, qui résume la grâce. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. C'est ça la grâce. La grâce, c'est recevoir quelque chose pour laquelle nous ne sommes pas dignes. C'est ça la grâce. Il dit, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Mais de là où tu es, tu peux donner un ordre. Mon serviteur sera guéri. La femme syrophénicienne dit à Jésus, oui, nous les petits chiens, on se contente du peu qui tombe de la table. C'est là que je veux nous faire rentrer ce matin pour nous faire réaliser c'est quoi la grâce de Dieu. Cette femme considère que les miettes qui tombent, elle dit, on n'a même pas besoin du pain. Le pain, c'est trop grand. Nous sommes tellement petits que les miettes qui tombent, ça suffit pour qu'on apprécie le bonheur. Jésus dit, femme, tu as compris c'est quoi l'évangile. Il dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Commençons par réaliser la grâce que nous avons. Comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup qui souffrent, autour de nous-mêmes peut-être. Et nous, on est là à envier. Pourquoi? Par la convoitise. C'est ça le texte là. La convoitise. On dit, oh là là, si j'avais la situation de tel, si j'étais à la place de tel. Mais non. Ça, c'est dire que Dieu est injuste. Non. Commence déjà par réaliser que le fait, comme je suis là, de me tenir debout, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Il y a des gens de mon âge qui ne peuvent pas se tenir debout. Il y en a qui ont pris la voiture, comme on m'a appelé une fois. Quelqu'un m'appelle en pleurant pour me dire, le copain de ma fille, en rentrant du travail, il a dû somnoler au volant. Combien de fois il nous est pas arrivé de piquer du nez en voiture, ça nous est arrivé peut-être. Ça nous est arrivé de piquer du nez sur l'autoroute. On se ressaisit, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il y en a pour moins que ça. Aujourd'hui, ils sont paraplégiques, tétraplégiques, je ne sais pas comment. Pour moins que ça. Tu peux être même attentif, sérieux au volant. Quelqu'un d'alcoolisé passe. Par mégarde, tu le renverses. Tu te retrouves en prison quand même. Même si c'est 1 an, 2 ans, parce que c'est involontaire. Mais il y aura quand même des séquelles de cela. Alors, si on peut prendre la voiture, revenir, partir, revenir, faire 1000 kilomètres, revenir, aller en vacances, revenir, tout ça, bien-aimé, disons, Seigneur, merci pour ta grâce. Ne soyons pas comme ce peuple qui est devenu un chef pour dire non, il y en a marre. Seigneur, je voulais un mari, tu me donnes le mari, oh, il est trop petit, il est trop court. Oh, il est trop gros. L'autre qui a le mari trop beau, trop bien, oh, il est trop beau, mais il a un sale caractère. L'autre qui a une femme, je ne sais pas comment, oh, cette femme n'aime pas les gens. Donc, bien aimé, on trouvera toujours quelque chose. C'est ce que Jésus a dit à cette femme. Il dit, celui qui me rencontre, moi, il a la véritable vie. Alors, l'exhortation, c'est parler à nos cœurs aujourd'hui pour nous dire, bien souvent, nous souffrons parce que nous nous sommes fait notre propre idée du bonheur comme ce peuple. Son bonheur à lui, c'était, on va manger la viande, on sera accompli, c'est ça. On sera parfait à ce moment-là. Dieu dit, vous en mangerez, vous en aurez même. Bien-aimés, on ne voit pas Carlos Ghosn, pour ceux qui connaissent les histoires. Suivez un petit peu son histoire, c'est le premier de la classe, c'est l'homme idéal. Qui a fait des études, venu de l'étranger, du Liban, venu, né au Brésil, ceci. Donc, un homme cosmopolite, qui a fait des études, qui a gravi les gestions jusqu'à devenir patron de Renault. Non seulement patron de Renault, il réussit à remonter Renault, il est appelé au Japon, Nissan. Il réussit à marier les deux entreprises pour en faire le plus grand groupe automobile dans le monde. Mais quelle gloire, quelle puissance. Cet homme-là a vu défiler les présidents français. Hein. C'est un honneur, ça. C'est un véritable honneur de savoir qu'il a été avec Chirac. Il a rencontré Chirac, il a rencontré Sarkozy, il a rencontré Hollande. Aujourd'hui, il rencontre Macron. Donc, dans la tête des présidents, ils se disent, mais ce type-là, nous, on passe. Parce que c'est notre mandat à lui. Mais lui, son mandat, c'est comme si c'est un mandat éternel. Parce que tant que tout marche, eh ben, tu es là. Mais bien aimé, regardons où il est aujourd'hui. Dans une cellule. Malade. À manger de bols de riz. À dormir sur un tatami. Alors nous, ce que nous avons, commençons par dire merci au Seigneur pour cela. Peut-être que ce n'est pas beaucoup. Peut-être que ce n'est pas à notre goût. Commençons, au lieu d'être comme ce peuple, à dire on n'en veut pas. Oh là là, nous étions bien. Il y en a qui disent même, depuis que je suis devenu chrétien, j'ai beaucoup de combats. Quand j'étais païen, oh là là, quelle tristesse. Quand j'étais païen, je pouvais faire ci, je pouvais faire ça. Quelqu'un ne pouvait pas manquer de respect comme ça. N'ayons pas ce langage-là. Et c'est le langage que le peuple avait en disant « La viande, le poisson en Égypte ne nous coûtait rien. » Pourtant, nous-mêmes, nous savons combien ce peuple a souffert. On le sait. Mais dans la colère, parfois, on dit des choses qui dépassent notre pensée. Mais Dieu, lui, prend ces choses-là au sérieux pour te dire « Ok, tu me rejettes. Tu me rejettes. Je te donnerai ce que tu penses te produire le bonheur, on verra. » Alors, apprenons à apprécier la grâce de Dieu. Maintenant, deuxième point, une fois qu'on a compris que tout ce qu'on a, c'est la grâce de Dieu. Maintenant, troisième point, c'est ce que nous avons, la bénédiction que nous avons, faisons un lien entre cette bénédiction et Dieu. C'est ça, mon troisième point. Seigneur, j'ai un mari. Seigneur, j'ai une femme. Seigneur, j'ai une famille. Seigneur, j'ai une maison. Seigneur, j'ai peut-être une voiture, un travail. Seigneur, je te dis merci pour cela. Mais je ne m'arrête pas là. Parce que Seigneur, je veux savoir qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quel est l'enseignement que tu veux que je tire de cela? Et c'est ça l'enseignement que Dieu voulait donner à Israël par la manne. Nous lisons Deutéronome au chapitre 8. Deutéronome 8. Deutéronome au chapitre 8. Nous lisons à partir du verset 2. Deutéronome 8, verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Voilà ce que le Seigneur dit à Israël. Le Seigneur a dit à Israël, souviens-toi de tout le chemin par lequel tu es passé. Souviens-toi de tout le chemin par lequel tu es passé. Il dit, ton vêtement ne s'est point usé. Tes pieds, parce que de marcher une telle distance, les pieds se déforment, s'abîment. Il dit, avec la chaleur en plus, il dit, tes pieds ne sont point enflés. Mais Dieu dit, souviens-toi que Dieu t'a nourri de la manne, verset 3, que n'avait pas connu tes pères. Dieu parle maintenant à Israël, il dit, mais mon fils Israël, ou ma fille, il dit, mais j'étais nourri de cela afin de t'apprendre quelque chose. Que tu comprennes qu'il y a un lien entre la bénédiction que j'ai et Dieu. Ce lien-là, c'est quoi? Le premier, c'est qui est la source de cette bénédiction? C'est Dieu. C'est Dieu qui est la source de cette bénédiction-là. Ce n'est pas moi, parce que je le veux ou parce que je le mérite. Ça rejoint notre deuxième point, la grâce. Mais la bénédiction que j'ai, qui en est la source? C'est Dieu. Et le symbole est là parce que ça tombait du ciel. Pour qu'ils comprennent littéralement que c'était quelque chose qui venait de Dieu. Ça ne sortait pas du sol pour qu'ils disent, bon, on va planter. Non, ça tombait du ciel. C'est Dieu lui-même qui donnait ça. Il dit l'enseignement qui était là. C'était que tu comprennes que l'homme, pour être heureux, il doit s'appuyer sur moi. Il doit suivre ma parole. Il doit faire le lien entre ce qu'il a comme bénédiction et la source de la bénédiction. Bien souvent, on s'accroche à la bénédiction, on néglige la source. C'est là qu'on est malheureux. Et Dieu, c'est pour ça qu'il est en colère. Il est triste. Il se dit, mais c'est pas possible. Comment, aujourd'hui on parle de famille recomposée, comment une femme peut accepter que son copain ou son futur mari, par exemple, puisse avoir de l'affection, de l'amour pour elle en refusant le fruit de ses entrailles, ses enfants? Est-ce que cette femme-là sera heureuse? Est-ce que cette femme-là va même accepter cet homme-là? Mais non, c'est pas possible. Parce qu'elle va se dire, mais c'est m'accepter moi, c'est accepter tout ce qui vient de moi. Si j'ai des enfants, tu devras aussi les aimer. Mais il y en a qui sont tellement égoïstes, ils disent non, moi les enfants, j'en ai que faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toi. Mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Parce qu'à un moment donné, la personne devra faire un choix pour dire non, entre mon amour, ma vie à moi, mon envie de jeunesse et mes enfants à moi, elle fera un choix. Et le choix normal, ça sera ses enfants. Et Dieu dit, comment vous pouvez choisir la bénédiction et refuser la source même de cette bénédiction-là? Comment refuser cela? Proverbe 10, 22, c'est un passage à connaître, nous dit quoi? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ma question c'est, nous qui sommes bénis, est-ce que nous avons des chagrins dans nos cœurs par rapport à ces bénédictions-là? Si c'est oui, alors moi je te donne la réponse, c'est que tu as négligé la source de la bénédiction. Parce que la Bible est claire, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a, il a fait suivre d'aucun chagrin. Dieu ne ment pas, Dieu ne se contredit pas. Donc si la bénédiction que Dieu me donne produit un chagrin en moi, c'est que je suis charnel. C'est que je désire quelque chose selon ma convoitise à moi, mais cette chose-là met de côté Dieu. Et mettre Dieu de côté finira très très mal. Alors le Seigneur nous exhorte aujourd'hui à mettre à la première place. À le mettre lui à la première place. Lorsqu'on met Dieu à la première place, alors on peut jouir réellement de sa bénédiction. Là où les gens vont voir qu'il n'y a rien d'extraordinaire, toi, tu dis, ah, c'est grand pour moi. C'est tellement grand. Là où les gens vont vouloir désirer plus, toi, pour toi, c'est tellement grand. Et nous arrivons maintenant à la conclusion, que faire? C'est s'humilier. C'est ça la solution. Humilions-nous et recevons les choses comme étant la grâce de Dieu. Quelque chose qui est teinté de la grâce de Dieu, eh ben, elle aura un bon goût. Puisqu'on sait qu'on ne le mérite pas. Elle aura un bon goût. On va l'apprécier parce que on sait que c'est un cadeau de Dieu. Je ne le mérite pas. Alors, ayons cette humilité-là de dire, Seigneur, pardonne-moi parce que je me suis comporté en chef. Pardonne-moi. Et deuxième point, c'est nous dire, lorsqu'il y a des choses qui nous dérangent, que faire? Allons vers Dieu. Crions à Dieu. Le peuple s'est tourné vers Moïse en murmurant. On nous dit ils ont murmuré. Murmurer, ça veut dire ce que ça veut dire. Je ne suis pas d'accord avec une personne. Plutôt que de voir la personne, je suis dans mon coin. Non, 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 non. Et ça produit quoi? La rancœur. Ça produit la haine. Tu vois la personne. Comme tu es en train de murmurer, au lieu d'arranger la chose, la haine monte et ça ronge, ça détruit. La colère monte et ça détruit. Tu deviens irritable. Tu commences à dire des paroles méchantes. Tu te retrouves toi-même, tout seul. Tu dis, ah oui, c'est vrai, j'ai mal parlé. Mais parce que, au lieu de parler à Dieu, de dire à Dieu ton problème, tu tournes autour du pot. C'est ça notre orgueil humain. Alors humilions-nous aujourd'hui, que le Seigneur nous aide à entrer dans sa volonté, afin de vivre le véritable bonheur qui se trouve en Dieu lui-même. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, qui nous rappelle, Seigneur, ce que tu es. Nous bénissons ton nom et nous te glorifions parce que tu es le Dieu vivant, le Dieu fidèle, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, pour nos mauvaises pensées, Seigneur, pour notre convoitise qui, Seigneur, nous empêche de vivre le bonheur que tu nous donnes, Seigneur. Seigneur, comme ça a été dit ce matin, nous voulons, Seigneur, réaliser ta grâce dans nos vies, Seigneur, tous les jours. Tout ce que nous avons tellement de sujets à nous plaindre, mais nous ne prenons pas le temps de réaliser ta grâce envers nous, Seigneur. Alors quelquefois, nos plaintes deviennent comme des droits, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous pour cela. Pardonne-nous pour cela, Seigneur. Ouvre nos yeux afin que nous puissions apprécier ta grâce chaque jour. Tout ce que tu nous donnes, Seigneur. Il y en a autour de nous qui n'ont pas cela. Nous avons la possibilité de faire des études. Nous avons la possibilité d'avoir une famille, Seigneur. Il y en a qui n'ont pas de famille, qui sont placés dans des foyers, qui n'ont même pas droit à des week-ends. Nous, nous avons des familles, Seigneur, avec lesquelles nous partageons des choses, même si nous aurions, Seigneur, aimé plus. Aide-nous à apprécier déjà ce que nous avons, Seigneur. Seigneur, nous prions aussi pour que tu nous aides à toujours faire le lien entre ta bénédiction et la source qui est toi-même, Seigneur. Que nous puissions toujours faire ce lien-là. C'est toi qui es la source de notre vie. C'est toi qui es la source de toutes nos bénédictions que nous avons. Même des malheurs qui nous arrivent aussi. Tu en es la source parce que tu as un objectif, comme tu l'as dit à Israël. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides à accepter cela, plutôt que de murmurer, d'être triste, malheureux, à pleurer tout le temps, Seigneur, parce qu'il nous manque ceci, il nous manque cela. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à changer notre conception, comme il est écrit dans Romains 12, que notre intelligence soit renouvelée au nom de Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ton esprit qui agit dans nos cœurs. Merci pour ta réponse, Seigneur, à toutes nos questions qui nous tourmentent, qui nous rendent tristes. Nous voulons par cette parole, Seigneur, retrouver la joie, apprécier ta grâce et comprendre que c'est toi qui es la source de notre vie, de nos bénédictions, Seigneur. Tu as dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai jamais. Seigneur, nous voulons tirer les enseignements, Seigneur, de cette histoire d'Israël avec la manne. Comprendre que ce que nous désirons, nous pouvons l'avoir aujourd'hui, demain, après-demain, cela ne produira pas le bonheur. Comme l'Éternel, tu l'as dit à Israël, ils mangeront la viande pendant un mois jusqu'à ce qu'ils seront dégoûtés de cette viande, Seigneur. C'est ce que nous sommes humains, nous sommes totalement insatisfaits. Nous en voulons toujours plus, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, parce que nous avons désiré autre chose que toi. Que ton nom soit béni au nom de Jésus.